Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, console, PC, mobile, etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis un petit peu, maladie tristesse. Je suis pas en très grande forme, j'ai attrapé une sorte de grippe ou de truc comme ça, donc on fait quand même l'émission parce que rien n'arrête l'information, hein, et vous attendez vos résumés de l'actu gaming et bien sûr on va pas, à moins qu'on soit complètement alité et impossible de faire quoi que ce soit, on est là quand même. Et pour m'accompagner, le grand retour après 2 mois d'absence du vénéré J.K. Loret. Comment ça va, J.K.?
Vénérable, je sais pas.
Peut-être.
Écoute, ça va. Moi, je suis plutôt en forme, contrairement à toi. Je tiens à préciser que juste avant qu'on lance l'émission, tu as lâché un gros bâillement. Je me suis dit, merde, ok, bon, écoute, si Patrick s'endort,
non, le relais. Le bâillement, c'est pas le pire. Le pire, c'est quand je suis en train de cracher mes poumons. ça m'arrive depuis hier. C'est progressif, c'est traître, bon, cette...
Voilà, il y aura peut-être du montage, à mon avis, à la fin de l'émission, on verra.
Peut-être, oui. Donc, j'essaierai de couper quand tout à coup, il y a un morceau de poumon qui me remonte dans la gorge, je couperai le son.
Et oui, ça va, c'est vrai que ça fait un moment de 2 mois, parce que c'est vrai que ça a été les vacances, les week-ends avec les copains de ZQSD, plus l'IFA à mon retour de vacances, j'ai enchaîné directement avec l'IFA de Berlin, mais bon, on n'est pas dans le rendez-vous tech, donc c'est pas le sujet. Et donc voilà, mais enfin, je suis de retour, je suis bien content.
Tu nous as manqué. Et justement, c'est bien que tu sois là parce qu'on a pas mal de choses à évoquer. On a le TGS qui était peut-être un petit peu underwhelming, comme disent les Américains. Mm-hmm. On a des nouvelles de Nintendo encore qui n'en finissent jamais. On a on va évoquer un petit peu plein d'autres petites news. Il y a Divinity Original Sin 2 qui est sorti, des reviews pour Marvel versus Capcom Infinite, PlayerUnknown's Battleground qui continue à faire des siennes. Et pour le coup, ils sont un petit peu en bisbille avec Fortnite. On en parlera. Moi, je suis pas hyper heureux de la manière dont ça se passe, etc., etc. Mais on commence avec le TGS que j'ai habilement renommé le TG Tristesse. Parce que c'était pas fameux, il faut avouer, ce petit Tokyo Game Show là. Il vient de se terminer il y a 2 jours. Et franchement, d'habitude, c'est un des moments de plaisir. Le jeu vidéo japonais est plus aussi présent et aussi important qu'il y a 10 ou 15 ans, on va dire, peut-être même 15 ans. Mais il regagne un petit peu de son lustre depuis, on va dire, 2 ans environ. Vraiment, il commence à revenir sur le devant de la scène. Du coup, je me disais que le Tokyo Game Show allait être intéressant. Et puis, en fait, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, faut avouer, non?
Ouais, globalement c'est un peu sur le même ressenti effectivement, et c'est vrai que le jeu vidéo japonais a vraiment redoré son blason depuis quasiment l'arrivée des consoles de PS4, notamment la PS4 et la Switch. L'année dernière, cette année on sort d'une année où quand même on a eu Resident Evil 7, Zelda et Nier Automata par exemple, c'est 3 jeux comme ça qui me viennent en tête qui sont japonais, et du coup on a l'impression qu'il y en a
d'autres.
Ouais, il y en a d'autres, mais c'est Persona 5, par exemple.
Voilà. C'est celui auquel je pensais.
Exactement. Et du coup, là, cette année, on attendait un peu un festival, parce que là, en gros, on a vu à peu près ce qu'allait sortir sur le jeu vidéo japonais dans les 12 prochains mois. On va dérouler le truc, mais il n'y a pas grand chose. Je pense aussi peut-être que le TGS n'est peut-être plus aussi important pour les éditeurs japonais. qui reste, quoi qu'on en dise, un salon très local, et peut-être qu'ils gardent aussi leurs très grosses annonces pour un E3, pour d'autres salons plus internationaux qui vont peut-être toucher un public plus international, parce que ils ont énormément, ils ont changé de politique, ils ont quand même beaucoup changé de politique depuis quelques temps en visant l'international beaucoup plus, etc., etc.
C'est sûr que le marché... Pardon, vas-y.
Donc juste, c'est pas forcément un cliché du jeu vidéo japonais à un instant T de l'EGS aujourd'hui. C'est aussi, c'est beaucoup de jeux qui sont un peu de niche ou qui vont plaire au public japonais, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas forcément beaucoup parler aux occidentaux, quoi.
C'est vrai que traditionnellement, le jeu vidéo japonais se vendait beaucoup au Japon et peu à l'international. Enfin non, c'est pas vrai. Pas peu à l'international, mais c'était presque kiff-kiff. C'était souvent 50-50. Donc ils mettaient le paquet aussi au Japon et puis les étrangers venaient piocher là-dedans et les trucs qui marchaient, bon évidemment ça fait longtemps que des Final Fantasy ou ce genre de trucs sont très très connus à l'étranger, mais traditionnellement ils se concentraient beaucoup sur le marché japonais. Aujourd'hui, vu la manière dont le marché japonais s'est enfui vers les mobiles encore plus qu'ailleurs et les faibles scores de vente au démarrage de la PlayStation 4, maintenant ça va mieux mais ça a pris un moment, on se rend compte effectivement que les développeurs japonais ont essayé de diversifier non pas leur offre, même si ça se retrouve un petit peu là-dedans aussi, mais leur cible. Ils ciblent beaucoup l'Asie en général et il cible aussi l'Occident. Donc c'est vrai, il n'est pas du tout impossible que certains éditeurs ou développeurs japonais se soient laissés quand même des fenêtres d'opportunité pour d'autres salons que le TGS, alors qu'il y a quelques années, c'était au TGS que les Japonais faisaient leurs grosses annonces et basta, quoi.
Bien sûr, donc, bien sûr. Il y a qu'à voir la conférence Sony, qui était quand même assez pauvre par rapport à ce qu'on avait le 3, même si cette année le 3 c'était pas terrible non plus, mais bon.
Ça après on pourrait en débattre, mais ce qui est sûr c'est que la conférence Sony du TGS, et rappelons que le TGS, c'est quasiment que Sony, en l'occurrence Nintendo n'avait pas grand chose de plus à présenter que ce qu'on avait déjà vu, et puis bon, Nintendo ils font généralement leur communication par leur Nintendo Direct, donc il y a plus trop de grosses conférences, mais du coup, Microsoft étant absolument absent du marché japonais, le TGS, c'est à 90% Sony. Et la conférence Sony, si vous l'avez vue, si les auditeurs l'ont regardée, on sent que c'est très modeste, quoi. J'ai envie de dire c'est un petit peu tristesse, mais c'est pas ça. C'est que ils sont modestes, voilà. Ils sont c'est un écran de taille normale. T'as l'impression qu'ils ont loué un ciné de banlieue. Ont invité les journalistes et puis voilà, c'est sobre, c'est calme.
Tout à fait. Ça a pas l'ampleur du tout d'une conférence E3.
Ouais. Tu sais, on pense toujours à l'E3, mais même les conférences de la Gamescom sont parfois importantes. Et puis là, il va y avoir
PlayStation Experience.
La PlayStation Experience en décembre. Et même, il y a le Paris Games Week où quand on a eu des conférences Sony, c'était un petit peu plus le spectacle, quoi.
Ouais, là, il y en a eu cette année d'ailleurs, je crois.
Exactement.
Et justement, le souci c'est que aujourd'hui Sony, si tu fais le compte, du coup ils ont jusqu'à 4 conférences dans l'année, c'est énorme. PlayStation Experience, Paris Games Week, E3, Tokyo Game Show. À un moment donné, tu peux pas envoyer des cartouches à chaque fois, quoi.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, alors parlons quand même de ce qui a été évoqué, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à mentionner. Et puis celle qui moi m'a le plus amusé, c'est Hokuto ga Gotoku. C'est-à-dire un mélange entre Hokuto no Ken, Ken le survivant, et Ryu ga Gotoku, Yakuza, le fameux jeu de Sega. Et on a vu passer des trailers un petit peu avant le Tokyo Game Show, et là, ils ont carrément révélé la date de sortie très très vite, c'est-à-dire une semaine après les premiers trailers, ils ont dit que le jeu sortirait, c'est quand ? C'est en février, je crois, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, le 22 février. Et du coup, ce qui est venu avec l'annonce de la date de sortie, c'est des explications un petit peu plus complètes sur ce qu'était ce jeu étrange. Et en fait, on a vraiment l'impression que c'est Ryu ga Gotoku avec Ken le survivant, quoi. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est Destiny Warriors, merde, comment ça s'appelle, Sengoku Musou.
Dynasty Warriors.
Voilà, Dynasty Warriors, merci. Oui, Destiny, je suis encore un petit peu obsédé.
Non, mais... ouais, c'est ça.
Mais Dynasty Warriors, qui a fait tout un tas de skins de Dynasty Warriors avec, bah, on a eu Zelda, etc. On a eu Dragon Quest, avec Dragon Quest Heroes, etc., etc. Il y en a eu d'autres. Là, ça m'a un petit peu fait penser à, on a déjà Yakuza, eh ben, on n'a qu'à en faire un jeu avec Ken le Survivant, et on fait, alors évidemment, ça se passe dans une ville de Ken le Survivant qui s'appelle Eden, mais c'est vraiment Kenshiro qui se balade dans le monde de Ken le Survivant, mais sur le mode de jeu complètement de Ryuga Gotoku. Même ils en font des clins d'œil, il doit être, par moment, on a Kenshiro qui est dans des bars à hôtesses, qui doit faire
qui doit faire des cocktails à un moment donné. Cocktail, en train de faire des cocktails avec son pouvoir là. Malheureusement je suis assez peu connaisseur du canon survivant, mais l'espèce de coup ultra rapide qu'il fait là, du coup c'est il s'en sert pour mélanger des cocktails, c'est marrant.
Et il y a même les voix des acteurs, c'est les voix des acteurs de Yakuza plutôt que les voix des acteurs de Octonoken, donc
ouais c'est un skin quoi, vraiment.
Voilà, c'est un skin, ça va sans doute être marrant parce que accessoirement ils ont les trucs avec les coups qui font exploser les gens, les de Ken le Survivant, tout ça. Donc, il y a quand même suffisamment de Ken le Survivant pour que ça plaise aux fans. Mais voilà, bon, c'est un truc vraiment marrant. C'est pas un jeu Ken le Survivant hyper sérieux.
Ouais. Mais ça a peut-être plus de sens que ce qu'on pourrait croire aussi, parce que mine de rien, les Yakuza, ce sont d'excellents jeux de combat, surtout, quoi. D'excellents beat'em all, le système de combat est vraiment très sympa, très développé, tout ça. Donc, du coup, ça colle pas mal avec l'esprit Ken le Survivant qui peut être un très bon beat'em all. Et au fait, ce qui fait la force de la série. Alors, moi, je connais surtout le Yakuza 0, là, qui est sorti récemment, qui est un excellent jeu. C'est vraiment l'écriture, le scénario, les cinématiques qui sont vraiment hyper travaillées. Est-ce qu'ils vont arriver à être très sérieux? Très premier degré souvent, et du coup est-ce qu'ils vont pouvoir transposer ça correctement dans un univers comme Ken le Survivant qui est peut-être un peu plus délirant, enfin je sais pas.
Bah, je pense que il suffit que les gens, les développeurs de Yakuza soient des fans de Ken le Survivant, et Dieu sait que dans nos générations il y en a des fans de
forcément,
Ken le Survivant,
ouais.
Et donc ça peut être écrit de manière respectueuse du matériau d'origine.
Ouais, je pense qu'ils vont pas faire n'importe quoi non plus, mais il y a toujours cette dose de dérision malgré tout quand on le voit en train de faire des cocktails, je dis ok, est-ce que c'est vraiment, pourquoi pas.
C'est ça, oui, c'est un petit peu, c'est vraiment la réaction, c'est genre bon, pourquoi pas. Un autre jeu qui a fait son petit effet, c'est Left Alive, un jeu de Square Enix dont on sait pas grand chose. C'est un jeu visiblement d'action avec des mechas à la Armored Core. C'est les trucs que ça a évoqué. Et quand je l'ai vu, moi je me suis dit waouh, ça ressemble quand même vachement à Metal Gear dans la direction artistique, tout ça. Et j'ai appris après que effectivement il y avait le directeur artistique le character designer de Metal Gear, c'est-à-dire Yoshi Shinkawa, qui avait travaillé dessus. Donc effectivement ça ressemble. De là à se dire c'est le Metal Gear de Square Enix, je pense qu'il y a un pas qu'on franchira pas, mais bon, voilà, c'est un jeu cette inspiration peut-être.
Ce qui est intéressant
peu
à savoir, c'est que ça se passe dans le même univers que celui de Front Mission, qui était une série de tactical RPG. Notamment, ça a commencé sur Super NES, je crois. Il y avait plusieurs épisodes, hein, et du coup, bah, ils reprennent cet univers pour en faire un truc qui ressemble effectivement à une sorte de TPS avec apparemment il y aura l'infiltration, donc on pense forcément à Metal Gear Solid, mais qui, on va dire que l'univers est quand même inspiré d'un univers déjà existant chez Square, donc c'est pas, mais en même temps qui ressemble quand même à celui de MGS, donc je sais pas qui a pompé sur qui, mais oui, après du peu qu'on en a vu, moi je sais pas, ça n'a pas du tout, enfin voilà, c'est le TPS grisou avec des gros mécas, bon, comme on a pu en avoir déjà.
On en prend note plutôt parce que c'est Square et que forcément quand Square fait quelque chose, bah voilà, on
s'y intéresse,
on le remarque, oui, c'est ça.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que c'est pas plus inspirant que ça. Personne n'en a parlé comme d'un truc incroyable qu'ils attendaient avec impatience. Il y a des gens qui attendent avec impatience Monster Hunter World, qui sera lancé en 2018. Alors toutes les dates que je vous donne, c'est des dates au Japon. Hein. Je ne sais pas si les dates sont les mêmes
en Occident. Bah, a priori, Monster Hunter, c'est worldwide. Hein, le lancement janvier 2018, d'accord. Ça est un, en tout cas c'est ce qui est marqué dans la news que t'as linké,
bah,
sur
écoute. Voilà, donc pour Monster Hunter je sais pas parce que non, dans la news ils disent qu'il il sera disponible le 26 janvier, mais ils disent juste qu'il sera disponible, mais ils précisent pas dans le monde entier, quoi. Donc
après c'est un épisode qui est très tourné vers, justement, encore une fois, l'Occident, celui-là, en termes de... Enfin, j'ai l'impression que c'est le moins japonais des Monster Hunter, quoi, limite, quoi.
Ouais. C'est vrai. Ah, pardon, oui, non, t'as raison. Effectivement, il sort moins aux US, donc a priori, c'est sorti mondial. Pardon, autant pour moi. Donc bon, c'est vrai que moi, je suis pas le plus grand fan de Monster Hunter. J'ai toujours essayé j'en ai essayé, je sais pas, peut-être 5 des jeux Monster Hunter et autres que, enfin, et dans le même style, genre God Eater, machin, tout ça. Et ça m'a jamais vraiment, j'ai jamais vraiment accroché parce qu'ils sont très abrupts, ils sont difficiles d'accès, je trouve, ces jeux. Mais c'est un succès absolument énorme. Monster Hunter est vraiment un. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était à l'origine sur PlayStation, chez Sony, et puis il est passé chez Nintendo, et là il revient sur PlayStation 4. Donc c'est un petit peu le retour au bercail pour Monster Hunter, et donc la version World, c'est une version très open world, justement, donc il y a un potentiel pour intéresser l'Occident également un petit peu plus. Maintenant ça a l'air quand même très traditionnel, Monster Hunter. Il y a peut-être des petits tweaks qui vont faire que ça va intéresser un petit peu plus les gens, comment dire, les nouveaux venus à la série, mais j'ai pas l'impression que ça soit Monster Hunter pour bébé, quoi. Quand je dis bébé, je parle de moi, hein.
Je sais pas, j'espère qu'il sera peut-être un peu plus abordable. Enfin, disons que la courbe de progression de Monster Hunter, elle est assez compliquée, la courbe d'apprentissage est abrupte. Moi je suis comme toi, j'ai essayé peut-être quelques épisodes sur différents supports, j'ai jamais réussi à vraiment m'y mettre sur le long terme parce que ça demande trop de temps, en fait. Celui-là, s'il est là, un peu plus abordable, pourquoi pas.
Et pourtant, Monster Hunter, il fait partie de ces jeux dont les fans sont incroyablement fans. Tu sais, c'est le genre de truc où t'as l'impression vraiment de passer à côté de quelque chose. Donc, moi, j'en parle depuis un moment. Je me dis, il y a un jeu d'ailleurs, je crois que c'est un jeu pour Xbox, je sais plus, un jeu pour console en tout cas, qui a l'air d'être un petit peu le Monster Hunter plus abordable. Je me souviens plus du nom de ce jeu qui était présenté à l'E3. Je sais plus. Bref.
Ça me dit rien.
Et donc, je me dis peut-être que ça sera une meilleure introduction à la série. Ouais. Mais bon. En tout cas, voilà. Monster Hunter, c'était Monster Hunter World. C'était, un autre gros jeu de ce TGS. Et j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Les gros morceaux, après il y a que des trucs qui sont un petit peu plus,
le truc c'est qu'il y a eu il y a quasiment pas eu d'annonce de jeu Unity, en fait, dans ce TGS, enfin en tout cas dans les gros jeux, on va dire. Il y a il y a eu Okuto no Ken, effectivement, il y a eu Left Alive qui étaient les deux nouveautés, on va dire, qu'on a aperçu, Dragon Ball, Monster Hunter, Shadow of the Colossus, tout ça avait été annoncé, quoi.
Oui, c'est ça, exactement.
On a juste eu plus de détails sur certains de ces jeux, une date de sortie, un nouveau trailer, etc. Mais il y a pas eu de vraies, de grosses annonces, de grosses nouveautés, quoi.
Ouais, exactement. C'était un petit peu la déception à ce niveau. Ils ont quand même fait un petit topo sur la réalité virtuelle, ce qui, selon notre ami Greg, pardon, grand spécialiste du Japon, est un petit peu dû au fait que au Japon, la réalité virtuelle marche vachement bien sur PlayStation à cause des films de cul. En fait, c'est ça qui... Bon, c'est pas si surprenant que ça, mais visiblement, il est hyper difficile de trouver des PlayStation VR au Japon parce que les gens, voilà, l'utilisent pour des films pour adultes, quoi.
Ok, sur PS4, ils arrivent à accéder à ce genre de contenu. Je sais pas comment ils font.
Mais... écoute, j'imagine qu'il y a peut-être, je sais pas. Je t'avoue que je suis curieux de par curiosité intellectuelle, tu vois,
Comme souvent, c'est cette industrie pousse aussi la technologie, hein, parce que la VHS dans les années 80, ça s'est extrêmement développé grâce à ça.
Bien sûr.
C'est rigolo. C'est souvent eux qui poussent, on va dire, des supports technologiques d'un écrit, quoi.
Exactement. Papa. Donc bon, en tout cas, voilà, la PlayStation, ils en ont fait un petit une petite partie dans leur conférence, donc elle était quand même là, la VR, je veux dire la PlayStation VR. Elle était quand même présente à la conférence, donc bon, à noter. Et puis après, c'était il y a Dragon Ball FighterZ qui continue à faire des vagues absolument partout. J'ai l'impression que à chaque fois qu'on le voit, les gens s'évanouissent de bonheur, et je comprends, parce que il est vraiment, il reste super beau et super bien fait. Et puis il y a plein de personnages, il y a le mode histoire qui a l'air pas trop mal, avec je crois qu'on l'avait évoqué, mais il y a ce mode histoire qui couvre en fait l'histoire, bon, je parle qu'aux fans de Dragon Ball là, mais l'histoire alternative du futur dont Trunks revient au début de Dragon Ball Z. Donc c'est un truc qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais exploré.
Je crois que d'ailleurs quand Trunks revient chez Gamekult, mais c'est pas le même Trunks.
C'est pas le même Trunks, mais Trunks est inspiré de Trunks, tu vois.
Oui, bah oui, je sais.
Donc bon, voilà, bref, Dragon Ball FighterZ, Fighters, qui est toujours hyper intrigant et qui arrive au début de l'année prochaine. Final Fantasy 9 qui est disponible sur PlayStation 4 en version refaite.
Ça, bon. Super. Enfin, okay. Tu vois, il est déjà dispo partout, même sur smartphone. Oh là là, enfin, oui, voilà. Bon, bref. Bon, après, c'est un excellent épisode, hein, mais voilà quoi.
Bon, pour ceux qui veulent le refaire sur PlayStation 4,
oui,
effectivement.
Voilà.
Shadow of the Colossus, ils ont remontré des images du remake. Ouais. Pas beaucoup, mais enfin bon, voilà, Shadow of the Colossus, toujours un nom.
A priori, je suis à Yoshida, je sais plus si c'est l'occasion de TGS qu'il a parlé un peu. Il insiste sur le fait que, contrairement à celui qui était sorti sur PS3, c'est pas juste un lissage HD, quoi. Ils ont refait tous les assets, enfin tout le moteur graphique. Il y a beaucoup de... C'est un vrai remake technique, en fait. C'est vrai que quand tu vois le jeu est super beau. Enfin, je trouve qu'il a vraiment la gueule. Et moi, c'est un jeu auquel j'étais passé complètement à côté à l'époque, parce que je trouvais que le jeu, au-delà de ses qualités, il avait de gros problèmes techniques. En fait, il était vraiment très poussif, et tu sentais que la PS2 n'arrivait pas à suivre la route, quoi. Là, du coup, une version, va dire, propre et très jouable et fluide, ça m'intéresse plus, quoi.
Oui, bah c'est le genre de jeu qui a fait l'histoire du jeu vidéo. Donc voilà, c'est un peu le genre de truc. J'essaye de penser à comment expliquer la différence entre Final Fantasy IX et Shadow of the Colossus, et pourquoi on peut être excité d'un remake de Shadow of the Colossus, ou intrigué en tout cas, et moins pour Final Fantasy IX. Final Fantasy IX, bon, c'était un bon épisode, mais c'était quand même un Final Fantasy comme on en a eu beaucoup. Et il y en a eu d'autres qui étaient plus intéressants dans la série. Shadow of the Colossus, c'était une manière différente d'approcher le jeu vidéo, d'approcher la narration dans le jeu vidéo, et c'était quelque chose qui a marqué vraiment son époque. Donc effectivement, je crois qu'il est légitime d'être plus comment dire, pas intrigué, mais d'insister un petit peu plus sur un remake, quoi.
Parce qu'en plus, c'est un jeu qui a pas eu un succès phénoménal à sa sortie, comme quasiment tous les jeux de Fumito Ueda. Donc, Fumito Ueda, c'est Aiko, c'est récemment The Last Guardian. Effectivement, et il fait des jeux qui sont très très souvent publicités par la critique, mais qui se vendent assez mal. Donc, c'est intéressant de pouvoir quand même qu'ils soient encore là. En fait, qu'il y a un vrai héritage de ces jeux-là et qu'on puisse encore y rejouer aujourd'hui, quoi.
Ouais. Bon, après ça, Dynasty Warriors 9, New Earth Defense Force, c'est un petit peu what the fuck, Zone of Enders qui arrive en... Oui, non, pardon, t'avais un truc à dire.
Non, cette série me fait rire, en fait, je trouve ça tellement kitsch, mais apparemment c'est bien.
C'est très très kitsch, ouais, je crois que c'est le bon terme pour les définir. Et puis Zoe, Zone of Enders, qui arrive sur PlayStation PSVR, là c'est un peu vomitif, je pense, mais bon, bref, pour les fans de ce jeu à l'époque... Ils en ont à se mettre sous la dent. Et voilà, c'est un petit peu tout pour le TGS. Et ouais, comme je le disais, bon, c'est un peu tristoun, quoi, ce TGS.
Non, c'est sûr. Ouais. Après, je pense qu'il y a eu tellement une bonne année au niveau du Japon, cette année, en termes de production. Peut-être qu'ils ont besoin d'un peu de transition pour. Et puis encore une fois, comme on disait, ils vont peut-être balancer des choses dans le courant de l'année, Voilà, je pense que c'est pas non plus un reflet totalement, c'est pas un vrai reflet de l'industrie japonaise parce que on a l'impression que les gros projets, on va dire vraiment excitants, c'est vrai que on a presque l'impression que, enfin, comment dire, le TGS, c'est vrai que ça va rester des jeux plus de niche. Enfin, tu vois, typiquement, est-ce que Okuto no Ken, enfin Okuto ga Gotoku, j'arrive à le dire, ça sortira en Europe déjà, si ça sort, ça sortira pas avant un an après la sortie japonaise. Il y a beaucoup de choses qui restent très très japonaises, quoi.
C'est sûr, et ça se voit d'ailleurs même dans les quand on parle de gros coups qui veulent frapper. Il y avait des journalistes qui sont allés, des journalistes européens et américains qui sont allés au TGS, mais enfin, c'est vraiment À quelques exceptions près, c'est genre les spécialistes, les fans du Japon, pour dans toutes les rédactions. Déjà, toutes les rédactions n'en envoient pas. Il y a quelques rédactions qui ont une équipe de nippophiles qui envoient quelques journalistes, mais c'est généralement assez limité, quoi. C'est pas, si tu veux taper un grand coup, c'est ça te dessert presque d'annoncer un gros truc au TGS, parce que ouais, la presse mondiale n'y est pas. Donc
n'y est pas forcément. Oui, voilà, à part les très gros sites. Aux États-Unis, je sais pas si c'est très couvert. En France, on a quand même une couverture assez assez conséquente.
Ah bah la France a une relation d'amour avec la France. Il faut se souvenir que c'est par la France qu'est arrivée la Japon Mania dans les années 90.
Hein. Bien sûr.
C'est vraiment, y a des gens qui s'en aperçoivent peut-être pas, mais l'amour des mangas et des animés et des jeux vidéo japonais, c'est passé. D'abord par la France, il y avait un engouement absolument incroyable à Paris en particulier, mais en France en général. Et donc traditionnellement, oui, on a beaucoup plus de fans de Japon chez nous. Je pense que même chez nos voisins européens, si on va en Allemagne, il y a plein de pays par exemple où les gens attendent que les trucs soient traduits. Et l'import est beaucoup plus faible. Nous, on lisait les trucs, on essayait de lire les trucs en japonais à l'époque, mais même aujourd'hui, il y a un marché de l'import, il y a des gens qui jouent aux trucs vraiment, même dans la presse, quand on a un jeu qui sort au Japon, dans la presse française, il est parfois testé comme un jeu normal, quoi. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins le cas ailleurs.
C'est sûr.
Justement, puisqu'on parle de Japon et de Japon éclatant et reluisant, parlons un petit peu de Nintendo qui, décidément, n'en finit plus de réussir la sortie de la Switch et donc de redorer le blason de la société dans son ensemble. Il y a eu un petit Nintendo Direct il y a une dizaine de jours. Et bon, il n'y a pas énormément de... il y a deux gros morceaux pour ce Nintendo Direct. Hormis encore des images de Mario que moi je commence à ne plus regarder pour ne plus me spoiler les mécaniques de gameplay, je regarde plus du tout.
Ouais, moi, je regarde plus rien hein, parce que les présentations d'une demi-heure, je veux plus les voir. Le jeu sort dans un mois, on peut attendre un peu quoi.
Exactement. Donc il y avait encore 10 minutes de Mario que j'ai pas regardé, mais il y avait deux gros morceaux. Le premier, c'est Bethesda qui après Skyrim débarque avec deux jeux beaucoup plus récent sur Switch, le premier étant Doom, donc le Doom d'il y a deux ans, qui arrive sur Switch, et donc ça c'est déjà un gros morceau parce que c'est un jeu très récent et graphiquement, on va dire, qui peut être un peu compliqué, qui sort sur Switch, alors il faudra voir à quoi il ressemble sur Switch, hein, mais il n'empêche, c'est un jeu récent, et puis surtout... Wolfenstein 2 The New Colossus qui arrive sur Switch également, et là c'est un jeu qui est carrément un triple A qui sort dans quelques semaines quoi. Donc sur Switch il sortira plus tard, il sortira en 2018, mais il n'empêche, on est dans la fenêtre plus ou moins de lancement, ce qui est assez surprenant et assez enthousiasmant pour les possesseurs de Switch qui vont du coup avoir au moins ça montre que sortir du triple A sur Switch c'est pas impossible.
Et puis ça montre aussi que les éditeurs, après avoir boudé les précédentes consoles de Nintendo, les éditeurs tiers, peut-être sont en train de changer leur fusil d'épaule. Bethesda en est un exemple excellent. Enfin, je veux dire, depuis quand il n'y a pas eu un vrai jeu Bethesda sur une console Nintendo? Ça va même pas te le dire, quoi. Tu vois, sur Wii U, je pense qu'il n'y en a eu aucune. C'est dingue. Et voir ces jeux-là qui sont des jeux, même quand on a ADN presque PC, en fait, enfin, Doom notamment, débarquer sur Switch, moi, je trouve ça mortel. Enfin, en plus, Doom, c'est un de mes jeux préférés l'année dernière. Je suis curieux de voir comment ça va s'adapter à la fois au hardware de la console et à la fois à la prise en main. Comme ça, un jeu très rapide, très nerveux, avec les deux sticks de la Switch. J'espère que ça va être bien pensé.
Je pense ça sera compliqué avec la manette attachée. Enfin, ça sera pas idéal, en tout cas. Je pense que c'est le genre de jeu pour lequel il faut une manette pro.
Après, moi, l'intérêt, ce serait des jeux en portable, justement, sinon.
Bien sûr. Oui, sinon, tu l'as déjà sur les autres consoles ou sur PC.
Effectivement. Mais c'est quand même chouette. Et du coup, entre ça et puis Skyrim, qui sort à la fin de l'année. En gros, Skyrim et Doom sortent d'ici la fin de l'année. Et Wolfenstein 2 l'année prochaine. C'est super de voir trois gros jeux comme ça. En plus, enfin, moi, j'ai un affect assez fort avec Bethesda. Je trouve que souvent leur jeu me parle beaucoup, donc je suis vraiment ravi. Et voilà, et surtout, on espère que les, bah, on espère déjà que les ventes vont suivre. Ça, par contre, je pense que là, en fait, c'est une première salve de jeux d'éditeurs tiers. Il y a Ubisoft qui sort des jeux aussi. Il y a pas mal de, il y a NBA 2K qui est sorti, par exemple. J'étais super étonné sur Switch aussi. Et c'est une première salve de jeux d'éditeurs tiers. Et je pense qu'ils voient, ils tâtent aussi le terrain, quoi. Ils voient comment ça marche, si ça se vend bien. Là, on aura peut-être la chance d'avoir beaucoup plus de jeux d'éditeurs tiers sur la Switch, quoi.
Ouais, c'est très possible. C'est vrai qu'on avait, on regardait Skyrim d'un œil un petit peu dubitatif parce que bon, c'est un jeu qui date de 2011 quand même. Mais là, oui, ça montre. Je pense que c'était Bethesda qui s'est dit bon ben on va s'entraîner au portage avec Skyrim. On va voir un petit peu ce que ça donne et puis si ça marche bien, on va y aller un petit peu plus sérieusement. Et du coup, bah oui, ils montrent qu'ils sont sérieux avec la Switch. Donc c'est très significatif que Bethesda le fasse. Ensuite, il faudra voir la gueule qu'ils ont. Hein. Parce que
ouais, exactement. Parce qu'en plus bon. Là, dans les trailers du Nintendo Direct qu'on a vu, c'était vraiment très très court. On voyait quand même, on arrivait à voir que Doom, les textures étaient forcément moins précises et tout ça. Après, le hardware qui équipe la Switch, il est quand même très bon. Enfin, c'est Tegra, hein, c'est Tegra X1 de Nvidia. Il est capable de faire des miracles, hein, pour le coup. Mais ouais, mais évidemment pas au niveau d'une PS4, d'un PC, etc. Mais
voilà, le truc, c'est que sur
l'écran de la Switch en 720p, par exemple, il y a moyen d'avoir quelque chose de sympa, quoi.
Ouais, moi je pense que ça sera au mieux correct. Voilà,
ouais,
on va
voilà.
dire
ouais,
acceptable,
ouais.
jouable en 30 images secondes
ouais, ouais.
avec
voir,
des textures ouais. moins belles, des un petit peu de géométrie plus simple, voilà. Mais bon, ça sera quand même le jeu tel qu'il dans le jeu en lui-même, étant donné que t'es sur Switch, que c'est portable, etc. Bon bah voilà, t'es quand même content de pouvoir l'avoir sur la console. Et puis imaginons que ça soit la console de quelqu'un qui n'a pas d'autre console et qui a un PC pas très puissant. Bah voilà, c'est l'occasion d'y jouer aussi, de jouer à un jeu qui n'est pas... Parce que il faut bien voir la direction dans laquelle se dirige la Switch. On a toujours dit c'est une bonne deuxième console et je pense que ça reste le cas encore aujourd'hui, mais il n'est pas impossible qu'à terme ça soit une bonne console tout court.
Enfin, principal, bien sûr.
C'est une bonne console tout court de toute façon. Je pense que là on est arrivé à un stade où on peut le dire, mais on peut imaginer qu'il y a des gens qui aiment les jeux vidéo qui vont dire bon ben ouais,
ah ouais,
j'ai pas
c'est
des millions à dépenser, je vais prendre une Switch plutôt qu'autre chose quoi.
Bah de plus en plus et il suffit de voir bah tout en plus des AAA, il y a quand même énormément d'indés qui sortent mine de rien qui commencent à peser vraiment sur le marché parce qu'il y a un catalogue très étoffé de jeux indés. Moi demain tu me dis tu te sépares de ta PS4 ou de ta Switch, bah je revends ma PS4 quoi. Alors certes c'est parce que j'ai un PC quoi et que à côté je joue beaucoup sur PC, mais je préfère garder ma Switch parce que je passe plus de temps sur ma Switch que sur notre console quoi.
Un autre titre qui a été annoncé, qui a fait beaucoup de bruit, peut-être pas forcément énormément en Europe, mais qui est hyper important pour Nintendo, la société, c'est Arena of Valor, qui est aussi connu sous le nom de Honor of Kings en Asie. C'est le MOBA de Tencent, le MOBA mobile de Tencent, dont je vous avais déjà beaucoup parlé dans l'émission. C'est vraiment la version mobile de League of Legends, bien sûr développée par Tencent, qui est également le propriétaire de Riot, donc le développeur de League of Legends. Mais c'est le jeu MOBA qui a réussi à s'imposer sur mobile. Et le fait qu'il arrive sur Switch, d'ailleurs on l'a même pas forcément évoqué, mais c'est marrant de voir des jeux AAA entre guillemets pour un public qui est adulte dans le sens où c'est des jeux violents. Bah Doom c'est du sang de partout quand même.
C'est clair.
Wolfenstein 2, c'est
pareil, oui.
Voilà, c'est on se souvient de la présentation où la femme enceinte poignarde 4 fois le nazi dans le. Enfin, c'est pas pour les enfants quoi.
C'est clair.
Et voilà, et les MOBA qui sont connus souvent pour la toxicité de leur communauté, etc. C'est intéressant de voir qu'ils arrivent sur Switch aussi.
C'est vrai que ce sera à voir comment ils vont gérer ça, Nintendo, qui est quand même ultra, la joue très safe sur la communication et notamment voilà le chat. Un jeu avec un MOBA, comment ça va se passer?
C'est très simple, ils ont pas de chat sur la console. Tu es obligé d'avoir l'app à côté pour faire pour te connecter au chat. Et du coup, je pense que là encore, pour les parents qui veulent donner un jeu à leurs enfants, du coup, même le MOBA, eh ben tu le files et tu peux pas discuter avec les gens, donc il va pas se faire insulter. Enfin, s'il a pas l'app à côté, eh ben t'es tranquille. Donc c'est peut-être effectivement une intention de design de Nintendo de ce truc complètement ridicule qui rend le chat vachement compliqué avec les deux entrées à mélanger pour avoir le casque et le machin, enfin bref, c'est impossible. Et bah c'est peut-être intentionnel quoi.
Ouais, tout à fait. Mais bon, du coup, sur un MOBA, est-ce que ça a du sens? Enfin, tu vois, je suis curieux de voir. Je suis vraiment curieux de voir comment ce jeu marcherait sur Switch, sachant qu'on peut y jouer de manière mobile sur un smartphone depuis longtemps, quoi.
Ouais,
c'est
à voir.
Étonnant. Bon.
Mais en tout cas, entre toutes ces annonces et le succès de la Switch en général, l'action de Nintendo a atteint un record. Ils sont au plus haut depuis 9 ans là. Et bon, c'est selon les analystes du Wall Street Journal, c'est surtout avec l'annonce de Arena of Valor, donc le MOBA, parce que il y a un potentiel de croissance en Chine qui est hyper important. Et donc forcément, le marché asiatique, c'est toujours compliqué pour les développeurs japonais, contrairement à ce qu'on pense. Le marché, c'est souvent, enfin, jusqu'à récemment, c'était souvent Japon d'abord, Amérique ensuite, Europe en troisième ou bon, pas loin derrière les États-Unis, et puis l'Asie quasiment en quatrième. Bien sûr, maintenant, avec le potentiel du marché chinois et du reste de l'Asie, les choses sont un petit peu en train de changer. Et du coup, le fait que Arena of Valor arrive sur Switch, bah, c'est un signal important pour les investisseurs et les joueurs en Asie, quoi. Et pour finir avec Nintendo, il y a des infos sur la NES classique et la Super NES classique. Régis Fils-Aimé a dit au public que de ne pas se précipiter sur la Super NES classique parce qu'ils allaient en avoir plus l'année prochaine. Ils essayent vraiment d'augmenter leur production. Et surtout, il a annoncé qu'ils allaient continuer et recommencer à produire la Super NES classique en 2018. Pardon, la NES classique.
La NES classique.
En 2018.
Ouais.
Donc, si vous avez acheté une NES classique au prix fort ou que vous en avez acheté une pour essayer de la revendre très très cher, eh ben, je suis pour les premiers tristes et pour les seconds heureux de vous dire qu'il y en aura plus de chez Nintendo. Donc, c'est pas la peine de payer le prix fort, quoi. Donc c'est une bonne nouvelle pour les gens qui en attendaient une. Et puis aussi, ce que je dis à chaque fois, je sais plus si on en avait parlé pour la Super NES la dernière fois, je crois pas, mais c'est aussi intéressant de voir ça parce que ça cloue le bec à tous les gens qui disent les constructeurs créent une demande artificielle en ne fabriquant pas, restreignant, merci, c'est difficile de parler français, en restreignant la production, et donc voilà, c'est ce que je dis à chaque fois dans ce genre de cas, ça n'a aucun sens de ne pas vendre votre produit aux gens qui veulent l'acheter, quoi. Ça n'a aucun sens le faire, à moins d'être dans le luxe et de vendre, des diamants ou des sacs à 5000 balles. Voilà, c'est pas.
Ouais, ils sont là pour gagner de l'argent. Et puis Nintendo, je pense qu'ils ont été pris de court par le succès d'NES Mini à l'époque. Ils se sont retrouvés à embêter au niveau production. Bon, là, ils ont changé leur fusil d'épaule. Et puis de toute façon, cette fois-ci, ils se sont doutés qu'en annonçant une Super NES Mini, ça allait surcartonner, hein, parce que autant me dire que dès qu'il y a des précommandes qui s'ouvrent sur Internet en 5 minutes, il n'y a plus rien.
Je pense qu'ils produisent autant qu'ils peuvent. Ça veut pas dire, oui, il va quand même y avoir des ruptures de stock terribles là cette année, mais peut-être que l'année prochaine il y en aura un petit peu plus. Enfin, ils continuent à produire, donc.
Exactement.
Ouais. Toi, t'as testé la Super NES Mini, tu me disais?
Moi, j'ai eu la chance, donc à la rédaction, on en a reçu une il y a longtemps déjà. Hein, ça fait déjà plus d'un mois qu'on en a une. Comment dire? C'est vraiment une madeleine. C'est la madeleine de Proust, qui est par excellence, quoi. Et pour le coup, c'est au-delà de ça, c'est un vrai bon produit, je trouve. Ils ont gommé plein de défauts de la NES Mini, notamment les câbles de manette qui étaient ridiculement courts sur la NES Mini. Cette fois-ci, ils sont deux fois plus longs. Ça reste quand même assez court, mais c'est quand même beaucoup plus utilisable. Il y a deux manettes incluses cette fois-ci dans la Super NES Mini, contrairement à la NES où il y en avait qu'une. Le catalogue de jeux est vraiment 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 très très bon. C'est-à-dire qu'au-delà des très gros classiques qu'il y a qui sont présents, les Zelda, Super Metroid, les Super Mario World, etc. Il y a quand même des inédits entre guillemets. Il y a Final Fantasy VI et notamment Earthbound qui sont officiellement jamais sortis en Europe, donc c'est l'occasion de les découvrir. Il y a Star Fox 2. Alors bon, a priori de ce que j'en ai vu, c'est pas terrible, mais au moins il a le mérite d'être là.
Final Fantasy VI, il était pas sorti.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Sous le nom de Final Fantasy III en Europe,
aux États-Unis, c'était la version américaine.
Ah, c'était la version. En fait, je me souvenais de l'avoir fait en fait, mais oui, je devais avoir un adaptateur.
Et d'ailleurs, sur la Super NES Mini, il s'appelle Final Fantasy III parce que c'est basé sur la version américaine, mais en fait, c'est le 6. Donc non, il y a un nouveau système qui est très très malin. Donc on peut toujours sauvegarder quand on veut dans un jeu sur quatre emplacements différents, mais il y a aussi un système de replay qui permet en fait de revoir quand on veut les 45 dernières secondes de jeu et revenir à un moment revenir ou quand tu veux dans ces 45 dernières secondes, et notamment dans des jeux extrêmement difficiles comme un Megaman ou un Ghouls and Ghosts, c'est quand même bien de pouvoir revenir en arrière, c'est chouette quoi. Non, c'est vraiment ça, si on est nostalgique, enfin même pas nostalgique, si on a aimé cette période du jeu vidéo, l'âge d'or des 16 bits, ce qu'on appelle la période 16 bits, c'est vraiment chouette quoi. Et contrairement à la NES Mini, je trouve que la grande majorité des jeux ont bien vieilli, sont encore tout à fait agréables à jouer aujourd'hui. Il y en a plein auxquels on peut jouer avec grand plaisir, alors que la NES classique, c'est vrai que tu vas rejouer à Mario et à Zelda, et là, les autres, c'est rigolo à quart d'heure, mais après disons que ce sera plus un objet de déco. Moi, ma NES classique mini, elle est sur mon étagère, et je la branche pas souvent, alors que la Super NES, j'y ai beaucoup plus joué depuis que je l'ai.
D'accord, donc c'est une recommandation de ouais, Zika, ouais. Contrairement à la NES. Ouais. C'est ça qui est important à dire, effectivement, ouais. C'est que les jeux, c'est pas juste 10 minutes et puis t'en as marre parce que tu te rends compte que c'est pourri. Là, c'est des vrais jeux jouables, quoi.
Et franchement, tu jouer à Zelda 3 encore aujourd'hui, c'est encore un immense plaisir, à Donkey Kong Country, pareil, vraiment, je conseille, même pour ceux, je pense, qui n'ont pas connu cette époque, c'est peut-être un poil plus difficile forcément de se mettre dedans, mais comme si vraiment vous intéressez, si vous êtes jeune par exemple, vraiment jeune et que vous n'avez pas connu cette époque, mais que vous vous intéressez à l'histoire du jeu vidéo, au rétro gaming, à ce qui a pu se passer avant, c'est intéressant parce qu'en plus c'est la façon la plus proche de retrouver les sensations de l'époque, parce que pour le coup la manette c'est exactement la même qu'à l'époque, le même format, etc. Donc c'est plus intéressant, je pense, qu'un émulateur, par exemple, avec les avantages de la modernité d'un émulateur, les sauvegardes, etc. Donc, c'est vraiment un bon compromis entre l'expérience de l'époque, telle qu'elle était à l'époque, et la modernité liée à la facilité de branchement, le système de sauvegarde, etc. quoi.
Moi, je veux un pack Super NES Mini sur Switch. C'est ça que je veux. Pour le prix de la Super NES Mini, la machine en plus, j'en ai pas besoin. S'ils le vendent, tu vois, en émulateur sur la Switch, avec tous les jeux, je suis prêt à payer le prix de la Super NES Mini sans aucun problème.
Ça, tu sais, je me demande ce qu'ils attendent pour sortir la console virtuelle sur Switch. Ça ferait un carton.
Je pense qu'on y arrivera à un moment, mais.
C'est obligé.
Pas encore, quoi.
Ouais,
une dernière petite news assez mignonne sur un truc qui a été découvert par un data miner sur la Switch justement, qui a découvert Golf, le jeu de la NES avec un émulateur NES sur la Switch justement. Et en fait, il n'y a pas vraiment de moyen de le lancer, c'est juste qu'il est là quelque part dans la mémoire de la Switch. Et du coup, quand c'est arrivé sur le net, il y a plein de gens qui ont commencé à se demander est-ce que ça voulait dire que Nintendo a mis un émulateur NES, machin, etc. Et en fait, la théorie la plus intéressante, c'est que c'est la théorie de Justin Epperson. Justin Epperson, qui est une personnalité du monde du jeu vidéo, qui a dit... A priori, moi je pense que c'est un omamori pour souhaiter bon courage entre guillemets, d'une certaine manière à la Switch, parce que c'est un jeu qui a été développé par Satoru Iwata. Et donc, c'était mettre un petit morceau de Satoru Iwata dans la Switch pour lui c'était bon courage. Les omamori, c'est des, comment dire, en anglais on dit a charm, une sorte de petit objet protecteur, tu vois.
Un porte-bonheur, quoi.
Enfin, c'est une sorte de porte-bonheur, exactement. Qui a été intégré dans la Switch, et effectivement c'est hyper mignon parce que Iwata avait travaillé sur la Switch bien sûr, et bon voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment touchant comme histoire.
Ouais, c'est super mignon, et c'est vrai que tout ça, pendant plusieurs jours, ça a été un peu la grande question. On dit pourquoi il y a ce jeu, en plus avec la compatibilité motion control, apparemment on pouvait y jouer avec les Joy-Con. Alors peut-être est-ce que c'est aussi au fait que Iwata était derrière la Wii à l'époque, je sais pas. Au début on s'est dit c'est parce qu'il prépare l'arrivée de la console virtuelle, justement. C'est peut-être le cas, mais ouais, c'est une histoire assez rigolote.
Ouais, c'est ça. Et bon, enfin bref, donc effectivement, Iwata qui garde son empreinte sur la Switch, c'est assez touchant, quoi.
Tout à fait.
Bon, donc voilà pour le TGS et pour Nintendo. On va passer à quelques news un petit peu plus rapides maintenant. Et d'abord, quelques jeux qui sont sortis, alors auxquels on n'a pas forcément joué, nous, mais qu'on peut évoquer rapidement. D'abord, Divinity Original Sin 2, qui vient de sortir, la suite de Divinity Original Sin, voilà, 101.
Déjà, oui, c'est un bon début, pour le moment tout est vrai.
Voilà, exactement. Et alors qui lui a quand même, sans grande surprise, de très bonnes reviews. Ouais. Toi,
il se vend très bien aussi.
Ouais, tu peux dire aux gens qui n'ont jamais joué à Divinity, qui connaissent pas, de quoi il s'agit, c'est quel genre de jeu,
bah, est-ce
qu'il
devrait être intéressé. Divinity, c'est tout simplement un jeu de rôle, mais très connoté jeu de rôle PC, parce que c'est dans l'ADN, c'est-à-dire que c'est l'héritier des jeux de rôle qu'il pouvait y avoir à la fin des années 90, notamment chez les Baldur's Gate, les Fallout, les Planescape Torment, etc., puisque c'est des RPG donc en vue du dessus, où on dirige un groupe de personnages, hein, plus, je sais plus dans Original Sin 2 combien on dirige de personnages, en tout cas c'était plus de deux, il me semble. Et voilà, et tout simplement c'est un RPG dans un univers de fantasy assez, alors c'est l'univers de Divinity qui est chez Larian, donc les Larian ce sont les développeurs qu'ils ont créé il y a très longtemps à travers d'autres jeux, et là en fait ce qui est très intéressant avec Original Sin, et ce qui était déjà le cas dans le premier et ce qui est apparemment encore plus poussé dans le 2, c'est la liberté d'action, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de façons de résoudre des quêtes. Il y a la façon bourrine, il y a le dialogue, il y a l'infiltration parce qu'on peut crocheter à peu près tout ce qu'on veut. Il y a énormément de choses comme ça, et d'après ce que j'en ai lu et ce que j'en ai discuté notamment avec mes collègues chez GK chez Gamekult qui ont joué, ils ont vraiment très en fait c'est des univers qui sont pas, c'est pas des open world immenses à la Skyrim, c'est des univers plus ramassés mais qui sont extrêmement condensés, il y a énormément de choses à faire, et c'est très cohérent en fait, et c'est très bien écrit, c'est assez drôle, il y a beaucoup d'humour, en plus la traduction française est apparemment de bonne qualité, donc voilà. Après c'est pas fort, il y a système de combat donc au tour par tour avec des points d'action, donc c'est assez c'est très à l'ancienne, enfin c'est très assez à l'ancienne au niveau des combats.
Ouais, j'ai l'impression que c'est des jeux de avec affection, c'est des jeux de barbu quand même, c'est des jeux de vrais.
Ouais malgré tout, mais ça reste comme je pense que c'est plus abordable que par exemple récemment il y a eu Pillars of Eternity qui était un jeu de justement des anciens de Fallout et de partie de Baldur's Gate qui lui reprenait vraiment les codes de l'époque sans vraiment faire d'efforts de modernisation, on va dire. Donc c'était vraiment hardcore. La Divinity est quand même plus abordable, et c'est, en tout cas Original Sin 2 a l'air plus abordable. Déjà le 1 était quand même plus abordable, je trouve, que les jeux que j'ai cités juste avant. Donc ça peut être super intéressant si vous voulez avoir un vrai bon RPG bien écrit. Vous aurez pas forcément l'open world de dingue à la The Witcher, mais par contre vous aurez une liberté d'action, je pense, qui se rapproche relativement, qui est assez proche finalement de ce que vous pouvez avoir dans un jeu de rôle papier où normalement vous avez toute liberté forcément. Là ça reste un jeu vidéo quand même, mais ils ont vraiment pensé l'expérience en tant que très grande liberté d'action, niveau d'écriture assez bon. Par contre c'est très chronophage effectivement. Attendez-vous à devoir y passer 80 heures quoi si vous voulez aller jusqu'au bout. Ça peut être un défaut comme une qualité. Moi je sais que c'est plus un défaut aujourd'hui parce que je sais que je vais y jouer, j'ai très très envie de m'y mettre, mais je sais aussi très bien que j'en verrai sans doute jamais le bout. Mais voilà, donc ouais non, ce sera sans doute mon prochain jeu là.
D'accord. Un autre jeu qui vient de sortir, c'est Marvel vs Capcom Infinite, qui est là par contre, c'est un petit peu l'opposé, c'est encore une fois un petit peu la tristesse. Comment dire ? Bah toutes les reviews sont quand même assez. Je sais pas comment décrire ce jeu sans être trop négatif. Au niveau du gameplay lui-même, ça passe à peu près, mais la direction artistique satisfait pas, le mode solo est pauvre. Quand je dis que la direction artistique satisfait pas, c'est un euphémisme, hein. Je crois que tout le monde est hyper critique sur la direction artistique. Ensuite, au niveau des personnages, pour un jeu comme ça où il y a Marvel et Capcom, ben les personnages, c'est forcément un truc qui va être important, et il y a tout un pan du panthéon Marvel qui est pas inclus. C'est-à-dire tous les X-Men qui n'y sont pas. Enfin bon, bref, ça a pas l'air d'être un très bon jeu et c'est malheureux parce que c'est une période comme je l'évoquais l'axiome 2017 qui dit que bah il y a tellement de jeux qui sortent que déjà on n'a pas le temps de jouer au bon, on ne joue qu'au très bon. Si celui-là, il est carrément moyen, je pense qu'il va être complètement effacé dans la fin de l'année et que on va le trouver à 25€ d'ici 2 mois pour ceux qui ont vraiment du temps à perdre, quoi. Donc bon.
Ouais, c'est un peu triste parce que c'est une licence qui a toujours été hyper appréciée, j'ai l'impression, et puis surtout bah là je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est le premier qui est en 3D en 3D en 2,5D. J'ai l'impression qu'avant c'était resté de la 2D à l'ancienne.
Non, le 3 était
déjà en...
c'était une sorte de 3D
à la Street 5 quoi, à la Street 4 ou Street 5 quoi.
Voilà, sauf que tu sais Marvel versus Capcom, ça explose tellement de partout que
ouais,
du coup ça disons qu'ils ils utilisent un petit peu plus la 3D, mais oui, c'est de la 3D, sur un plan. Oui, t'es pas en train de jouer en 3D, c'est juste que pour les supers, les machins, ça tourne autour.
Bien sûr.
Bon. Mais j'avoue que moi, je reste quand même curieux de mettre un petit peu les mains dessus, sur Marvel versus Capcom Infinite, ne serait-ce que parce que c'est un jeu de combat de Capcom et il y a Marvel et voilà. Donc, c'est ça. J'ai quand même un petit... je suis un petit peu intrigué quand même. J'avoue que ce que j'ai vu de la démo que j'avais fait à l'époque, ça m'a pas hyper rassuré non plus. Donc voilà, je suis tiède. Disons qu'il y a d'autres choses à faire avant. Il y a Shadow of War qui arrive dans 2 semaines là. Je pense que c'est un meilleur investissement pour moi en tout cas. À propos d'investissement pour des trucs qui arrivent entre guillemets bientôt, Red Dead Redemption 2. Risque de voir un nouveau reveal, des nouveautés annoncées. C'est même pas risque d'ailleurs, c'est certain.
Ce jeudi, ouais.
Rockstar. Oui, pardon, vas-y.
Non, vas-y, je t'en prie.
Rockstar a, comme à son habitude, juste tweeté une image avec le fond rouge style Red Dead Redemption et comme seul texte, jeudi 28 septembre à 11h temps de Eastern Time, donc horaire de l'Amérique de l'Est, et avec rockstargames.com. Donc voilà, c'est tout, ça suffit.
J'adore,
ils ont eu
ouais.
90 000 likes, 40 000 retweets, machin.
Je pense que les RP de chez Rockstar sont les mecs qui sont le mieux payés par rapport au niveau de boulot qu'ils ont à faire. Alors, j'exagère, mais franchement, c'est dingue. Je crois que c'est quasiment les seuls qui peuvent se permettre ça, quoi. De teaser un jeu, d'être présent à aucun salon, enfin, en tout cas, les jeux Rockstar, hein, ou alors, sauf quand la machine vraiment médiatique est lancée. Mais là, les mecs, effectivement, ils vont publier un trailer le 28, ça va être suivi dans tous les sens. Enfin, ça va être, je pense que, après, je sais pas tout ce qui va se montrer, mais. La période de l'année voudrait que il présente enfin des images de jeu ou au moins du moteur du jeu avec peut-être une fenêtre de sortie un peu plus précise, on verra quoi.
Bah je pense oui, parce qu'on a eu le teaser il y a plusieurs mois déjà qui était vraiment très très court, on voyait pas grand-chose même s'il a été analysé dans tous les sens. Et le jeu était prévu pour cet automne, il a été décalé au printemps prochain. Donc a priori, à moins qu'il soit encore décalé, c'est toujours possible, mais a priori, on est à quoi, 6-9 mois de la sortie du jeu, bah il est temps de lancer la machine médiatique. Et le plan de com, généralement, on commence à peu près 6 mois, un petit peu plus, avant la sortie du truc. Donc je pense qu'on aura une mise à jour assez substantielle, quoi.
Ah bah là on attend tous. Puis bon, après je sais pas si toi, mais moi c'est dans mon top 3 des jeux les plus attendus des 2 ans à venir, quoi. Donc
ah bah bien sûr, oui non mais Red Dead Redemption 2, je pense que c'est le cas pour une bonne partie des joueurs, en tout cas tous ceux qui ont joué au 1. Et oui, c'est certain que bah c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de mettre juste une image avec 3 mots et que tout le monde devient fou, quoi.
Tu m'étonnes.
Bon, bah plus d'infos dans quelques jours à peine. PlayerUnknown's Battleground, toujours lui, c'est invraisemblable comme il continue à faire parler de lui. Et bah il est devenu le jeu qui a le plus de joueurs simultanés sur Steam de l'histoire. Donc on l'évoque depuis quelques mois qu'il est en 3e place, en 2e place, machin. Bah là ça y est, il a eu le plus de joueurs simultanés sur Steam, au-dessus de Dota. Mais il y a un autre truc qui est intéressant, dont on peut parler à propos de ce jeu, c'est le fait que Fortnite a lancé un mode Battle Royale à l'intérieur du jeu, en faisant référence à PlayerUnknown's Battleground. Alors Fortnite, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est une sorte de tower defense de construction vue à la 3e personne de chez Epic, qui est disponible en accès anticipé depuis un petit quelques semaines, peut-être même quelques mois déjà. Et du coup, ils ont lancé ce mode Battlegrounds, enfin le mode Battle Royale, clairement inspiré de PUBG. Et jusque là, tout va bien. Non seulement clairement inspiré, mais ils ont dit « Ouais, on est des grands fans de PUBG, donc voilà, on lance notre mode à nous. » Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que les gens de Bluehole, donc le développeur de PUBG, ont annoncé qu'ils étaient très mécontents de cette version, de ce nouveau mode de Fortnite, et qu'ils étaient en train de réfléchir à de possibles actions en justice en fonction de la manière dont les choses se développent. Et là, j'avoue que moi, je suis parti dans une spirale de d'énervement sur Twitter. Enfin bon, j'ai tweeté 5 tweets, quoi, voilà. mais ça m'a beaucoup frustré, parce que on est vraiment le jeu vidéo, c'est vraiment une industrie où le copyright n'existe que sur l'écriture, effectivement, ou l'aspect des personnages, l'histoire des personnages, ce qui est écrit, ou alors le trademark, c'est-à-dire les marques, la manière, la gueule, le nom de la marque, de la société ou du jeu. Mais voilà, mais le design du jeu n'est évidemment pas protégeable légalement. Et ça, c'est un truc qui est hyper important, et c'est le cas dans de nombreuses industries, c'est le cas dans la mode, dans la cuisine, enfin même dans les autres industries artistiques, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a des films qui sortent souvent sur le même thème plus ou moins en même temps, genre le film catastrophe avec l'astéroïde qui explose la moitié de la Terre, il y en a 2-3 en même temps, il y a des modes, il y a des genres, et même en jeu vidéo. Évidemment, les genres se développent parce que les développeurs s'inspirent les uns des autres. Et c'est le cas, encore une fois, dans toutes les industries artistiques. Et ensuite, s'il faut définir le design du jeu, là, on arrive sur une pente hyper glissante où on va copyrighter du code, copyrighter des mécaniques de jeu. Enfin, c'est une ineptie. Et bien sûr, je pense que Bluehole aura énormément, énormément de mal à avoir gain de cause dans un tribunal, enfin c'est ridicule, et surtout c'est un signal hyper négatif envoyé à la communauté. Moi je trouve que c'est hyper ils ont le vent en poupe, et je pense qu'ils vont corriger le tir très vite, parce que là c'est vraiment, si tu veux te présenter comme une société avare, anti esprit de communauté, anti collaboration, machin, c'est le meilleur moyen de dire ce genre de choses. Et bon, donc moi, ça m'a beaucoup déçu de la part de cette société qui a pourtant le vent en poupe. Et en plus, ça permet de mentionner le fait que bah c'est pas comme ça que ça marche le jeu vidéo. Tout le monde s'inspire de tout le monde.
Ouais, c'est assez nul. Et puis attends, on parle quand même de Perennial Battleground qui a pas non plus inventé un genre. Enfin, c'est des gameplays qui sont hérités de DayZ, de tous ces jeux de survie en monde ouvert, en multijoueur. Enfin, viens, ils ont pas. Enfin, eux-mêmes, on se sont inspirés et ont copié énormément de trucs qui existent déjà. Donc c'est complètement débile de vouloir attaquer quelqu'un parce qu'ils vont faire un mode qui ressemble à. À ce moment-là, il y aurait des procès tout le temps partout, quoi.
Ils disent aussi oui, nous on utilise le moteur Unreal de Epic et Fortnite c'est un jeu Epic, donc ils nous ont espionné comment on faisait les trucs machin. Enfin c'est ce qu'ils ont plus ou moins insinué. C'est effectivement ridicule. Et puis tu le dis, ils sont eux aussi inspirés énormément de jeux qui sont venus avant. Même si c'est Brian Greene, je sais plus comment il s'appelle, le développeur. Bon, il a fait trois versions du truc dans les différents, mais lui-même faisait des mods. Ouais. Dans les jeux dont qu'il utilisait. Et après Battle Royale, le film Battle Royale, c'est exactement ça. Enfin bon, à peu de choses près, mais ouais. Clairement l'inspiration dans les milieux artistiques, c'est essentiel à la création. Donc sans avoir essayé ce mode dans Fortnite, peut-être que c'est exactement la même chose, mais enfin là aussi tous les genres de jeux, tout le jeu vidéo et a été construit sur les bases des jeux qui sont venus avant. On évoquait les Divinity, je sais plus comment il s'appelle l'autre dont tu disais qu'il était un petit peu plus
Pillars of Eternity.
Voilà, Pillars of Eternity. Tous ces jeux-là, cette époque, c'était à qui copiera le plus l'autre. Enfin, les FPS.
Mais depuis toujours,
qui sont nés avec Wolfenstein et Doom, les RTS avec Dune, ouais. À l'époque, et puis Blizzard qui les a pompés de manière éhontée pour faire
puis
Warcraft.
Blizzard, ça a toujours été bizarre, ils ont toujours, enfin, et c'est pas une critique, hein, ils en sont toujours inspirés de trucs qui existaient déjà pour en faire un truc à leur sauce et le faire sans doute souvent mieux. Personne n'a attaqué Blizzard en disant vous avez copié mes jeux, quoi.
Non, et puis eux-mêmes, ils ont aussi fait naître des gens, enfin,
exactement.
Souvenons-nous que le MOBA, à l'époque, Dota, c'était un mode dans StarCraft. Et d'ailleurs,
World of Warcraft a inspiré tellement de mécaniques de MMO après.
Donc, bref, c'est ridicule, c'est décevant de la part de Bluehole, et j'espère qu'ils corrigent le tir, parce que non seulement ils n'ont aucune chance d'avoir gain de cause nulle part, mais en plus, ça leur salope leur image complètement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper, hyper maladroit de leur part, quoi.
Ouais, c'est un peu dommage. Bon, après, souvent ce genre de polémique retombe quand la communauté s'en mêle et que ça crée vraiment ce qu'on appelle un shitstorm, hein, et ouais. Du coup, ils rétropédalent, quoi. Il y a plein de sociétés qu'on fait le cas, qu'on fait ça. On verra dans un mois où on en sera. Hein.
D'ailleurs, à propos de la communauté qui s'en mêle, vous avez peut-être entendu parler de cet incident entre le développeur de Firewatch et PewDiePie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cet incident, mais en résumé, PewDiePie a dit des choses racistes encore une fois dans son stream. Il s'en est excusé. Ensuite, est-ce que ses excuses sont sincères ou pas, c'est un autre débat. Mais Camposanto, c'est bien ça leur nom.
Tout à fait.
Le développeur de Firewatch a dit bon bah on en a marre d'être associé à ce mec, donc on va faire faire retirer nos vidéos de sa chaîne YouTube, enfin les vidéos où il utilise notre jeu sur sa chaîne YouTube. Donc ils ont émis une copyright strike, ce qui est très dangereux pour un créateur de chaîne YouTube. Mais bon, en même temps, ça lance sur le débat qui possède les droits sur le jeu. Est-ce que c'est le développeur sur les vidéos du jeu, est-ce que c'est le développeur ou le YouTuber? Ça, c'est un grand débat dans lequel on va pas rentrer. Mais du coup, la communauté de PewDiePie est allée sur Steam pour exprimer leur mécontentement, et genre ils ont noté le jeu Firewatch super mal en masse. D'ailleurs, PewDiePie a dit oui, je suis pas d'accord avec le copyright strike, mais je suis pas d'accord avec le review bombing non plus. Voilà pour le contexte, et c'est pas la première fois que ce genre de choses se produisent, hein, des gens une communauté qui s'acharne sur un jeu sur Steam et donc qui fait chuter sa note. Et ben, j'en arrive à la news dont je voulais parler. Steam a, enfin Valve a mis implémenté une nouvelle fonctionnalité dans les reviews ou dans la lecture des reviews sur Steam. C'est un histogramme qui vous permet de voir sur le temps comment étaient les reviews et si elles étaient plus ou moins positives ou plus ou moins négatives chaque jour depuis des semaines, des mois, etc. C'est hyper hyper malin, je trouve. Ils ont vraiment des gens intelligents qui bossent chez Steam, parce que pour le coup, ça n'interdit pas aux gens de mettre des reviews pourries tout à coup. C'est clairement, ça respecte la liberté de chacun, mais en même temps, ça enlève complètement cette obscurité qu'il y avait autour des reviews, et donc on se disait, ah merde, le jeu il est à 2 sur 5, est-ce que ça veut dire qu'il est pourri? Ben non, on va regarder l'histogramme, et on voit que pendant 6 mois, il a eu des reviews plutôt super positives, et tout à coup, du jour au lendemain, il y a 100 fois plus de reviews négatives, et 25 fois plus de reviews positives, parce que les gens qui sont contre ce review bombing essayent de compenser. Enfin, tu vois qu'il y a un truc complètement bizarre qui se passe. Et donc, tu peux vraiment avoir une lecture exacte de ce qui s'est passé sur ce jeu et au moins comprendre. Si tu vois que tout à coup, les reviews tombent de manière dramatique, tu dis, ah ouais, bon, là, il y a un truc qui s'est passé. C'est encore Internet qui fait Internet et je vais pas forcément tenir compte de ces reviews-là dans ma décision d'achat. Donc, je trouve ça hyper, hyper malin de la part de Steam.
Ouais, ouais, puis ils ont été réactifs, hein, je trouve, hein, parce que l'affaire est toute récente. Après, c'est pas la première fois qu'il y avait un review bombing, mais là, ça a été sans doute le truc de trop. Et
moi, je pense qu'ils y travaillaient depuis des mois et des mois. Hein. C'est pas pour ce problème, pense, oui. C'est pour les nombreux qui ont eu avant. Ouais.
Peut-être qu'ils ont accéléré la cadence quand ils ont vu l'histoire avec PewDiePie et que ils se sont dit bon, là, c'est le moment ou jamais, quoi.
C'est possible.
Mais ouais, c'est une bonne chose.
Ouais. Et peut-être que le système était prêt et qu'ils se sont dit on va le sortir maintenant, comme ça lui donnera plus de publicité et donc les gens s'en rendront compte,
coup, s'en rendront compte, ça a été newsé, ça a beaucoup été repris dans la presse et peut-être que s'ils avaient sorti ça
il y a deux semaines
je pense que ça n'aura pas eu le même impact médiatique, c'est sûr.
Une bonne nouvelle, tiens, quand même, il y en a de temps en temps. Phil Spencer a été promu chez Microsoft. Il est devenu, Phil Spencer étant la personne qui dirige le département Xbox de Microsoft, et il a rejoint ce qui s'appelle la Senior Leadership Team, qui fait partie. Donc, il y a une vingtaine de cadres importants dans l'entreprise qui sont dans le cercle fermé de Satya Nadella. Ce que ça veut dire pour la division Xbox, a priori, on l'espère en tout cas, c'est que Phil Spencer aura plus voix au chapitre dans les décisions stratégiques de Microsoft et que du coup, la console Xbox sera plus pris en compte dans les choix que feront les gens de l'équipe dirigeante de Microsoft. C'est, j'espère, une bonne chose. Bon, il est toujours possible aussi que ça soit genre on donne un truc à Phil Spencer parce que justement on n'a pas été concentré sur la Xbox, donc politiquement dans la boîte ça veut dire c'est le moyen de lui filer un os, tu vois, comme on dit en anglais.
Ouais, s'arranger.
Voilà. Mais je pense pas. Moi je pense que du coup, enfin même si c'est le cas, ça fait que Phil Spencer aura beaucoup plus de facilité à se faire entendre quand ils prennent les grandes décisions dans la boîte. Et je pense que c'est ce qui a manqué, possiblement, hein, j'imagine, que c'est ce qui a manqué à la section gaming console de Microsoft, parce qu'on a bien senti depuis 2 ans que on a l'impression que c'est un peu le parent pauvre de Microsoft, quoi. Et ce qui manque, c'est une voix forte chez les décisionnaires, j'imagine, ou peut-être.
Ouais, peut-être, et puis hein, une vision peut-être plus globale de où ils vont dans le jeu vidéo. Et parce qu'il y a, n'oublions pas que dans un mois et demi, il y a la Xbox One X qui sort, qui est quand même un gros morceau chez Xbox et même chez Microsoft. Hein, donc, ils ont peut-être besoin effectivement de renforcer cette partie-là. Quoi.
Ouais, c'est effectivement le cas. quelques petites news rapides pour conclure. D'abord, Battleborn qui n'aura plus d'update, de nouveaux contenus. C'est pas hyper hyper surprenant, surtout que Gearbox a l'air de se concentrer sur Borderlands 3. Ils l'ont à moitié annoncé par la voix de Randy Pitchford, non?
Normalement c'est Pitchford le
qui avait tweeté un truc genre vous inquiétez pas, on travaille tous à un nouvel épisode d'un jeu que vous attendez tous. Bon, donc il aurait pu tout aussi pu tout autant pu dire on travaille sur Borderlands 3.
Mais, ah ouais, ça soit Duck Nukem Forever 2, mais ça m'étonnerait.
Je suis pas certain que tout le monde soit autant. mais voilà, c'est un peu. On parlait de Lawbreakers la dernière fois. Là encore, Battleborn a eu le malheur de sortir au mauvais moment et 15 mois après la sortie, il y a plus de contenu pour un jeu comme ça. Voilà, une autre victime.
Ah, ça se demandait si elle a la place pour un autre FPS héros brawler, on appelle ça, je crois.
Héros brawler, c'est Heroes of the Storm. Hein, faut pas confondre. Ils ont abandonné. C'est un MOBA maintenant. Ils ont compris qu'il fallait.
Exactement. Ouais. Et ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il y a presque pas la place pour un autre, quoi. Enfin, ou alors faut qu'il soit vraiment très bon. Enfin, apparemment, Lawbreaker, c'était pas terrible non plus. Donc, mais ça s'est planté méchamment.
Je pense que c'est une question de fenêtre de sortie aussi. Hein. Tu vois, qui sortirait l'année prochaine, par exemple, il aurait peut-être une place à avoir, ou en tout cas aurait plus d'attention. Là, ils se sont télescopés et c'est malheureux, mais bon, voilà.
Tu joues toujours Overwatch, toi ?
Ouais, tout à fait. Un petit peu moins là, parce qu'il y a eu Destiny et machin et l'autre jeu, mais ouais. Et à propos des jeux infinis, des jeux auxquels on joue tout le temps, dernière petite news, si vous êtes toujours plus ou moins intéressé par World of Warcraft, et je sais que vous êtes intéressé par le contenu audio de qualité, bah peut-être que vous serez intéressé par le nouvel audio drama qui vient de sortir, qui s'appelle A Thousand Years of War, qui est une sorte de pièce lue, dans l'univers de World of Warcraft, qui explique certaines choses qui se sont passées avec les derniers développements du nouveau patch, machin. C'est un petit peu comme ce qu'ils avaient fait pour la sortie de l'extension il y a un an avec c'était The Tomb of Sargeras, avec l'histoire de Gul'dan et comment il était revenu, il avait libéré. Enfin bref, les fans de WoW comprendront de quoi il s'agit. Et là, c'est l'histoire de Thuralion depuis qu'on l'a quitté. Et moi, évidemment, qui suis fan de WoW et fan de podcast, bah là, c'est un petit peu la combinaison des deux. Et c'est hyper bien fait, c'est une pièce lue, quoi. Et si vous êtes un peu fan du lore de World of Warcraft, c'est un truc qui risque de vous plaire. Moi, en tout cas, je l'ai dévoré, c'est une heure et demie, quelque chose comme ça. Et c'était hyper, hyper intéressant. Donc voilà, je le signale à ceux qui ne suivraient plus l'actualité de World of Warcraft, mais qui sont un petit peu fans du truc quand même. Ben, c'est peut-être un truc qui pourra vous intéresser. Et c'est la fin de notre épisode. Je signale quand même, oui déjà, je signale quand même que je vais peut-être mettre en fin d'épisode un petit truc qui n'a aucun rapport avec rien, mais qui, je pense, vous plaira aussi. C'est un truc que j'ai vu ce matin, retweeté par notre ami Exerve, qui est un type, c'est vraiment les merveilles d'Internet, quoi. C'est un type qui a une chaîne YouTube avec genre 3000 abonnés, qui a publié une vidéo où il a fait un truc complètement débile et super marrant. Il a mis une phrase idiote dans Google Translate. Vous savez, on peut lire les phrases qu'on écrit dans Google Translate. C'est juste un des trucs qui peut lire sur internet, et il a mis genre I like hot dogs because they're not dogs, I like hot dogs, Coca-Cola, hamburgers, machin, et puis il le fait lire par la voix japonaise, et à partir de là, il en fait une petite chanson hyper prenante, et c'est un truc, mais enfin, je vais pas vous en dire plus. Je vais mettre le son de la vidéo à la fin de l'épisode.
Oh là là, je pense que ça va rendre fou, ça.
C'est les trucs. Enfin, moi, je l'ai dans la tête depuis ce matin, depuis que j'ai commencé. Ma femme le chantait aussi, depuis. Enfin, bref. Voilà, c'est juste un truc. Et allez voir, je mettrai les liens vers la chaîne YouTube, le lien vers la chaîne YouTube dans les notes de l'émission. Allez voir ça, ça vaut le coup. C'est le genre de truc débile qui ne peut exister que sur Internet. Et quand j'entends les gens qui disent que Internet, c'est que des gens qui se plaignent et de la noirceur et machin, ça, c'est juste mignon et adorable. Et ça va vous rester dans la tête jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, je le mettrai en fin d'émission. Mais avant ça... est-ce que tu peux nous dire, J.K., où on peut te retrouver sur Internet si les gens veulent plus de trucs merveilleux sur le net après cet épisode?
Merveilleux, je sais pas. Il y a donc sur les numériques, hein, pour des sujets plus high-tech au quotidien. Et dans le podcast ZQSD qui a fait sa rentrée la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais plus. Le numéro est pas encore en ligne, on est un petit peu loin à faire le montage. Donc voilà, un numéro de rentrée à la cool entre nous, pas d'invité, mais on a fait un dossier sur les Walking Simulator, hein, on décrypte un peu ce genre très particulier, on parle de Hellblade, de Sonic Mania, dans Si mes souvenirs sont bons, notamment, donc voilà, et on rigole toujours autant, donc c'est cool. Ça devrait être en ligne, là, j'espère, cette semaine, ça va dépendre de si ce bon Oupi arrive à faire le montage à temps. De toute façon, ce sera en ligne avant la fin du mois, c'est à peu près sûr, voilà.
D'accord, bon, il faut aller mettre un petit coup de fouet...
Allez voir Oupi sur Twitter, ouais. Là. Faites un review bombing sur Oupi pour qu'il puisse monter, pour qu'il puisse monter et qu'il essaie plus vite.
Très bien, très bien. Bon, merci beaucoup, Jika. Et donc, effectivement, ZQSD, pour les fans de jeux PC, c'est le podcast à écouter.
Tout à fait, oui.
Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et bien sûr sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous pouvez également aller laisser des reviews sur iTunes notamment, comme Scraze qui dit « Je suis Patrick depuis mes 17 ans, ces podcasts sont très plaisants à écouter, très bons, avec 5 étoiles ». Merci à toi Scraze, merci à tous ceux qui laissent des reviews sur iTunes, c'est hyper gentil de votre part. Et si vous aimez pas iTunes ou tout simplement que vous voulez ne pas utiliser iTunes et le recommander ailleurs, sur Facebook, sur vos réseaux sociaux, vous mettez un petit lien vers le podcast, vous expliquez pourquoi vous l'aimez et vous en parlez à vos amis, ça file forcément un coup de main et c'est hyper gentil et ça nous aide beaucoup parce que les podcasts, c'est toujours difficile d'en découvrir un nouveau. On a généralement ce qu'on aime bien et on va pas sortir ailleurs et du coup, la recommandation des amis, c'est toujours un facteur important. Donc, si vous pouvez tweeter ou Facebooker un lien vers le rendez-vous jeu, ça nous aidera forcément en recommandant l'émission à vos amis. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et dans 15 jours, on sera à une journée de la sortie de Shadow of War. Est-ce qu'on va décaler l'épisode pour pouvoir en parler? Je sais pas, on verra à ce moment. Mais dans tous les cas, moi, je vais retourner dans mon lit, me recroqueviller et tousser mes tripes avec la satisfaction du fait que l'épisode est sorti quand même. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés, on vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 15 jours. Ciao ciao.
Salut.
I like hot dog, because it is not a dog.
I like hot dog, because it is not a dog. Do you like hot dog? Eat, eat, eat hot dog. Hot dog, burger, Coca-Cola. I like hot dog, because it's not a dog. Do you like hot dog? I like hot dog.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.